grand témoin. Merci et heureuse de vous retrouver en ce dimanche 12 janvier 2014, premier numéro du magazine Le Grand Témoin. Et avec moi dans ce studio, le docteur Mukumbi Masangu Henry. Il est médecin spécialiste en santé publique, expert international en VIH-SIDA. Il est aussi directeur exécutif d'Amo Congo. Bonjour docteur.
Bonjour Kelly.
Amo Congo qui est une organisation non gouvernementale congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-SIDA en RDC, c'est ça?
Oui,
je ne me trompe pas.
Non, c'est ça, tout à fait.
Et ça signifie quoi concrètement Amo Congo? C'est ACF Amo Congo.
ACS Amo Congo. ACS comme Action Communautaire SIDA. Amo Congo comme, paradoxalement, avenir meilleur pour les orphelins. Mais je dirais des SIDA pourquoi? Peut-être très rapidement.
Oui.
Au départ du VIH-SIDA, on avait beaucoup de malades. On a travaillé dans les services de médecine interne. Les femmes mouraient, on n'avait pas de traitement et les enfants restaient en vie. La plupart des personnes, la stigmatisation était très forte. On amener des enfants de ces femmes malades à la cité, on disait, ah, parce que leur maman est malade, donc ils ont aussi le sida, on peut pas le garder, et on allait les laisser à l'hôpital. Et ces femmes mouraient, le corps allait à la morgue, et les enfants restaient gabandés dans l'hôpital.
Et c'est ça qui a poussé à la création de cette ONG.
Au Congo, pour garder ces enfants qui ne devaient pas rester à l'hôpital.
Alors, on va y revenir, docteur, mais avant ça, on va parler un peu de vous. Vous êtes né un certain 5 juillet 1963. En fait, je vous ai même pas présenté mes vœux, meilleurs vœux.
Merci.
Pour l'année 2014.
Merci.
Alors, je disais, vous êtes né, le 5 juillet 1963, où?
À Lubumbashi.
Dans la province du Katanga.
Du Katanga.
Et c'est là où vous avez...
Alors, le Gécamine, sud, comme on dit.
Ah, d'accord. C'est là où vous avez passé votre enfance.
Oui, j'ai fait mes études d'abord maternelles au foyer social de la Katouba, où ma mère était directrice à cette époque-là. Et après, j'ai commencé mes études primaires au collège Saint-François des Salles, qui s'appelle aujourd'hui Imara. Donc, j'ai fait mes 6 ans primaires là-bas. Et mes études secondaires dans le même collège, Imara, où j'ai eu mon diplôme d'État en 1984. Donc, je suis un loup choix d'enfance, mais après, j'ai quitté pour venir sur le Kinshasa faire mes études ici. Voilà un peu.
Aux humanités, vous avez fait des études
scientifiques d'abord et puis biologie-chimie. J'ai terminé en biologie-chimie. Je suis diplômé d'État en scientifique, option biologie-chimie. Et j'ai même donné cours de biologie et de chimie à l'école secondaire avant de commencer l'université.
Ah, c'était pour...
On était
pour
jeunes.
Passer le temps avant
pour
de
la
commencer.
Survie aussi. On n'avait pas tous les moyens nécessaires et tout. On passait aussi le temps, mais la survie et tout. Donc, on a donné des cours. En même temps, après, on a commencé à étudier. Donc, mes 2 premières années de médecine, je les ai faites à Lubumbashi. Et puis, en 3e, jusqu'à en faire médecine, en doctorat. Donc, je suis venu à Kinshasa.
Pourquoi vous avez quitté Lubumbashi pour venir à Kinshasa pour la médecine?
Oui. Une des choses importantes, bon, en fait, d'abord en tant que jeune, ce que je n'ai pas dit, j'ai fait le scoutisme, j'ai fait beaucoup de mouvements de jeunes, donc j'aimais bien voyager depuis l'école secondaire. Chaque fois je suis à gauche, à droite, je retourne le Katanga, qui est ma province natale. Mais après, j'avais l'ambition de faire l'université en dehors du Katanga, mais malheureusement, j'ai pas pu commencer en dehors du Katanga. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir un peu plus de moyens, et surtout, l'université de Lubumbashi venait de recréer la faculté de médecine, donc elle était encore un peu neuve. Nos pensions d'expérience étaient plus fortes sur le Kinshasa. Avec beaucoup d'amis, nous sommes venus sur le Kinshasa, et on a donc continué, voilà. Donc, je suis venu sur le Kinshasa, où j'ai pensé faire juste 2-3 ans pour terminer ma médecine, 4 ans. Je venais
vous
en
avez passé plus de temps.
Oui, je venais en tant que quelqu'un venant de l'intérieur. Kinshasa, c'est dangereux, c'est plein de bandits, c'est là. Donc, j'ai vite terminé ma médecine, j'y rentre. Mais j'ai trouvé des copains bien et on a fait que finalement, bon, on a adopté Kinshasa, on a évolué. Et puis, j'ai aimé une fille ici et puis je me suis marié et puis je suis resté. Bon.
À la fille que vous avez aimée, c'est celle que vous avez épousée.
Bien sûr.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Marié à Espérance, que je salue en passant.
Bonjour, madame Espérance.
Et on a 5 enfants. 2, 3 garçons et 2 filles que j'aime beaucoup et que je salue aussi en passant.
Alors, docteur Mukumbi, quel est le souvenir que vous a le plus marqué pendant votre jeunesse, peut-être aux humanités ou à l'université?
Des souvenirs, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Mais je
ne
vais pas tout dire. Mais j'ai été dit que j'étais scout, donc j'ai beaucoup fait des voyages en brousse en tant que scout. C'est extraordinaire de partager la vie.
On apprend beaucoup de choses, hein, pour
beaucoup.
Le scoutisme.
Oui, oui, oui. Et ça m'a marqué donc dans ma jeunesse en tant que scout. J'ai découvert des forêts, j'ai découvert des choses importantes, des amis et tout. Bon, après je suis venu à Kinshasa. Kinshasa, qu'est-ce qui m'a frappé ou qu'est-ce qui était extraordinaire?
Lorsque vous êtes arrivé, c'était votre première fois d'arriver à Kinshasa?
Bien sûr, bien sûr. Et puis je suis arrivé.
La chose qui vous a frappé
En arrivant d'abord,
en arrivant à Kinshasa,
il faisait très chaud. Je suis venu bien sapé, une grosse veste et tout et tout et tout. Et je suis arrivé, l'avion a atterri vers 14h. Mon frère m'attendait, il faisait terriblement chaud et j'ai dû enlever ma veste. Et puis après, on est parti chez mon frère, resté à Montbélé, c'était vers 15h. Une pluie a commencé. Et une heure après, on avait plein d'eau dans la parcelle. Un mètre d'eau et tout le monde avait des seaux en train de verser ça dehors. Moi, c'était spectaculaire. Je n'avais jamais vu une rue qui s'est transformée en rivière en une heure. Et j'ai dit à mon frère, mais qu'est-ce que tu fais avec Kinshasa avec une rivière chez toi? Donc ça, c'était la première journée. Et un ami est venu le voir, mais en sortant de chez lui pour partir, on a dû appeler le Poussou. Poussou, c'est pas ce que tu connais. Et on nous a pris à trois pour l'accompagner sur la rue. Donc c'est le premier jour de ma vie à Kinshasa.
Voilà. Sûrement que vous vous êtes dit, mais je suis venu faire quoi dans cette ville?
Bien sûr. Mais après, j'ai découvert que c'était à côté de la rivière Mosso. Donc à Montbélé là-bas, il y avait une rivière qui était juste derrière chez mon frère et qui débordait quand il pleuvait. Bon, bref.
Mais après, vous avez aimé?
J'ai aimé parce que maintenant, ça fait plus de 20 ans que je vis ici. J'ai ma maison, j'habite depuis 14 ans à Pigeon. Donc j'ai aimé. Mes enfants tous sont nés à Kinshasa. Bon, je suis devenu plus quinois que louchois.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, docteur Henri Mokoumbi?
Je suis un homme très sympathique, très communicatif. Et j'aime bien les gens qui aiment partager, parler. Et les gens qui, par contre, s'isolent ou en fomentent de pouba, un peu malhonnêtes, c'est pas bien. J'aime pas. J'ai pas des gens tout à fait focalisés, mais j'aime la solidarité. Donc ce qui n'est pas solidaire, je n'aime pas. J'aime l'honnêteté, ce qui n'est pas honnête, je n'aime pas. Mais j'aime la compagnie. J'aime les choses simples et tendres. Moi, je me dis, le Congo est beau, il faut l'aimer. Il n'y a pas que l'extérieur du pays qui est très beau. Donc j'aime mon Congo, je reste. Je voyage beaucoup, mais je rentre toujours au Congo pour dire que j'aime le Congo. Et quelqu'un m'a dit d'ailleurs, mais docteur, yo, mon problème n'est pas papier, c'est compliqué parce que tu pars toujours, tu rentres. On te refoule toujours ou quoi? Je dis non, je rentre parce que j'aime mon pays.
Docteur Henri Mokoumbi, c'est quoi votre plat préféré?
J'aime, si mon épouse pouvait être là, j'aime le poisson fumé avec du pondou. Et le boukari, pour ceux qui savent, ceux qui ont été à Lumbashi, c'est le maïs à base, le foufou, mais à base de maïs, un tout petit peu de manioc, qu'on appelait à l'époque la boule nationale. C'est mon plat préféré.
Sportif?
Pas beaucoup. J'ai arrêté beaucoup de choses avec la jeunesse, l'examen d'État. Maintenant, je marche beaucoup de temps en temps, mais maintenant avec des raisons de santé depuis 3-4 ans, je marche beaucoup moins. Mais j'ai joué beaucoup au basket à l'époque et au foot. De temps en temps, avec mes enfants, on va au centre sportif pour jouer ou au martyr. De temps en temps, faire un peu de musculation. Mais j'aime le foot comme spectateur aussi. Okay. Je suis fanatique de TP Mazembe.
Radio Capi, grand témoin.
Docteur Henri Mokoumbi, celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui, il est médecin spécialiste en santé publique et expert international en VIH-Sida. Il est également directeur exécutif de ACS à Mokongo, qui est une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Alors, docteur Henri Mokoumbi, parlons de votre parcours professionnel. Après vos études à l'université de Kinshasa, vos études de médecine, est-ce que vous avez commencé directement à travailler ou vous avez chômé avant de trouver un travail?
Je suis un vénard. J'ai commencé des choses, même avant que je ne termine déjà mes études, j'étais plus ou moins presque engagé. J'ai travaillé d'abord avec la Croix-Rouge nationale congolaise, c'est-à-dire j'étais responsable du programme Sans et Sida. C'était un vaste programme. En tant que jeune, donc j'ai commencé presque à mi-chemin de mes études, presque à la fin. Et après, quand j'ai fini, je me suis rapidement retrouvé engagé à la Croix-Rouge internationale. Je dirais d'abord, avant même que je ne termine, en tant qu'étudiant à l'université, j'étais très actif. Comme je l'ai dit, j'étais président du mouvement Croix-Rouge sur le site universitaire. Il y avait trop d'activités, donc j'étais déjà suffisamment connu au niveau de la Croix-Rouge internationale et tout. Ce qui fait que souvent j'avais des consultations, des choses comme ça que je faisais. Donc quand j'ai fini aussi, j'ai eu la chance d'être pris comme field officer, officier des terrains, pour la Croix-Rouge internationale, et nous avions comme gestion des programmes. Alors,
la Croix-Rouge, c'est un peu du bénévolat que vous faites?
Oui, disons que dans la Croix-Rouge, il y a beaucoup de choses. Il y a la partie bénévole, mais il y a la partie aussi travail. C'est vrai qu'il y a des membres de la Croix-Rouge qui sont des bénévoles, des activistes, qui sont là comme un mouvement, comme scoutisme et tout. Mais nous avons aussi la partie curative, la partie préventive, la partie action Croix-Rouge. qui est fait des programmes de lutte contre le sida, de programmes de don de sang, de programmes de sécurité sociale, de distribution alimentaire. Et moi, j'ai été particulièrement dans le programme de sang et sida. Là, nous étions maintenant des professionnels engagés, pas à temps partiel, pas comme bénévoles, mais comme acteurs. Mais de l'autre côté, nous avons des bénévoles qui sont des donneurs de sang.
Et vous faisiez quoi exactement?
Récolter du sang dans les quartiers, et puis contrôler ce sang, les redistribuer dans des autres hôpitaux, là où ça manquait. Un peu ce que fait actuellement la banque du sang. Après, j'ai été au CICR où j'étais responsable du programme de secours d'urgence. Le CICR s'occupe principalement des incidents fabriqués par la main de l'homme. Donc, il y a eu des tueries ou il y a eu des pillages, il y a des choses comme ça. Il faut ramasser les blessés rapidement, les évacuer. Donc, j'ai participé au plan de secours d'urgence et j'étais un des responsables. Et là, j'ai géré tout le Congo, parce que j'étais responsable au niveau de Kinshasa. Et le CICR, à cette époque, gérait le Congo, le Rwanda, le Burundi, le bureau de Kinshasa. Donc, on était tout le temps appelés à amener du secours d'urgence, des tentes, des plâtres.
Donc, vous bougez trop au Kinshasa, Kigali.
Et j'ai beaucoup aimé ma vie parce que, comme j'ai dit depuis le scoutisme, je voyage beaucoup. Et puis, le CICR m'a permis de tourner à travers toute le Congo d'abord. Je suis un des Congolais qui connaît très bien tout le Congo, Matadi, partout qui vous, je peux rouler en voiture comme si j'habitais là-bas, Lubumbashi.
Le fait de trop bouger comme ça, est-ce que ça vous crée pas de problème avec la famille, madame, les enfants? Vous êtes tout le temps parti.
Parce qu'on était déjà fiancés, on était dans une église protestante, vous savez, là, il faut présenter les deux mariés 3-4 fois avant la célébration de leur mariage. Et chaque fois qu'il fallait présenter, le pasteur disait « Henri n'est pas là, il est en voyage. Henri n'est pas là, il est en voyage. » Finalement, ils ont dit à ma fiancée à cette époque « On espère que le jour de ton mariage, il sera là quand même. » Ce jour-là. J'étais même là. Donc, c'était déjà une habitude. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. C'est habitué. Mes enfants aussi sont habitués. Quand je pars, papa, au revoir. Ils savent qu'une semaine après, je reviendrai. Donc ça, c'est avec le CICR.
Mais vous-même, comment vous vivez ça? C'est vrai que vous faites ça depuis longtemps.
Comme je dis, j'aime le monde, j'aime les gens. Et je sais que la vie est partout. Moi, je peux dormir dans une case au fin fond de Popocabaca, comme je peux dormir à Washington dans un hôtel 4 étoiles de la même manière. Je rencontre des personnes, partout il y a la souffrance, partout il y a la joie. Donc, quand je voyage, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et je partage facilement et j'accepte ça. Et les voyages sont pour moi, depuis toujours, j'ai trouvé que c'est très instructif. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me plaît beaucoup.
Alors, vous êtes médecin spécialiste en santé publique, expert international en VIH-SIDA. Et donc après vos études en médecine, vous vous êtes spécialisé en santé publique.
Oui, j'ai d'abord travaillé et après j'ai commencé à participer aux activités de médecine interne et parasitaire. Et après, j'ai pris carrément une spécialisation en santé publique. La santé publique, c'est la médecine un peu plus communautaire en général et non pas clinique. Donc, on voit beaucoup des épidémies, on voit des choses en grand en termes de maladies. Et là, j'ai fait une bonne partie sur le Kinshasa. Et puis, j'ai fait un DU en épidémiologie avec l'Université de Bordeaux. J'ai fait aussi des études de biologie statistique, qui s'associait toujours à ça, toujours avec l'Université de Bordeaux. Et avec l'IMT Anvers, en particulier, je me suis beaucoup spécialisé sur le VIH/SIDA, toujours en complément de santé publique. Donc, je suis étudier aussi l'IMT Anvers, en Belgique, ça.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, il y a quelqu'un qui vous a inspiré à devenir médecin ou c'est de vous-même, vous vous êtes dit je deviendrai médecin parce que vous voulez être au service de la communauté, tout le monde et des gens?
Oui, disons que j'ai 2-3 personnes qui m'ont inspiré. J'ai un oncle qui est médecin, frère à ma mère, et moi tout petit, je le voyais venir des seringues à gauche à droite, et un peu naturaliste aussi, donc j'aimais bien, ça c'est un. Et puis il y a un ami à mon frère, mon grand frère qui est déjà décédé, paix à son âme, Christophe, qui était aussi médecin, qui revenait de Kinshasa, c'était pas, qui me parlait de la tête, il y avait quelque chose qui s'appelait l'hypophyse, qui dirige les choses, moi je me disais c'est quoi tout ça. Donc ces gens-là m'ont inspiré. Et ma famille en général, nous sommes à 10, mon père nous a tous poussés à aller aux études. Il y a 5 ingénieurs, 3 médecins et 2 économistes. Donc tu vois, j'étais dans une famille très compétitive pour les études. Mais les ingénieurs nous ont battus parce que les médecins sont à 3, ils sont à 5. Donc tous mes grands frères, moi je suis le 5e, c'était stimulant. Donc toutes ces personnes-là m'ont inspiré. Et quand je suis venu à Kinshasa, j'ai rencontré quelqu'un qui était formidable. Le père à son âme, il est déjà mort, docteur Kassela Lucien, qui était l'ancien directeur du PNLS, programme BCC-SIDA, assassiné à cette époque-là. C'est un peu lui aussi qui m'a mis l'orientation beaucoup sur le VIH/SIDA. Ça a été presque mon mentor, mon parrain. Il avait l'amour pour le SIDA et tout. Il n'avait pas de stigmatisation par rapport aux personnes à cette époque-là. Donc, ça m'a donné des orientations sur le VIH/SIDA et aujourd'hui, bon, je suis médecin, je suis très comblé, j'aime mon travail. Je travaille parmi des pauvres, parmi les gens très affectés, mais j'aime ça parce que quand tu vois quelqu'un qui pourrait être mort depuis 3-4 ans, qui te dit encore bonjour, qui te dit encore merci docteur, je suis en vie grâce à toi, ça dépasse l'argent, ça dépasse tout et tu es content.
Peut-être pour vous ça dépasse l'argent, mais on sait qu'actuellement en RDC, quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas soigné.
Oui, c'est dommage. C'est vrai que la santé a un prix. Imaginez-vous quelqu'un qui fait un accident, qui est en réanimation, il a besoin d'oxygène et tout ça coûte un prix. Il faut pas demander au médecin de payer tout ça de sa poche. L'État aussi doit mettre les moyens qu'il faut et tout, il faut payer complètement. Pas seulement les médecins, les journalistes, les juristes et tout. Donc la santé a un prix. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est beau, c'est que nous travaillons entre la vie et la mort. Nous amenons la vie par les maternités et tout, ça fait une joie extraordinaire, même pour une femme. Quand elle a un enfant, c'est extraordinaire, ça dépasse tout. Mais nous sommes aussi à la fin de la vie. C'est-à-dire, entre la vie et la mort, il faut signer l'attestation de décès, il faut accompagner les gens dans leur douleur et tout. Bon, bref, c'est pour dire que c'est un métier trop social et très proche des gens. Et quand on y vient avec cette conviction qu'on est social, qu'on est proche des gens, on retrouve son compte. Soyez même sans argent, ne fût-ce que par l'amour qu'on a de l'autre, la compassion.
Il faut avoir cet amour-là, cette compassion, docteur, comme vous dites.
L'empathie et tout. Moi, j'ai eu des malades qui m'ont dit, docteur, le fait tout simplement que tu m'avais bien reçu, tu m'avais expliqué tout ce que j'avais la première journée, j'étais déjà guéri à moitié, avant même les médicaments. Pas plus tard, encore une semaine, j'étais dans une fête de mariage, j'ai vu quelqu'un qui vient me dire, je dis, docteur, mon petit frère, il a toujours juré par toi. Il est au Kassai, cette personne-là. Il dit, il a toujours dit, Henri, docteur Henri, dès que tu m'avais reçu, les 5 premières minutes de la façon, tout le monde me stigmatisait. Mais tu m'as mis tellement à l'aise et tout, je me dis, mais c'est pas possible, donc je suis encore en vie. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, la personne vit. Donc, on peut soigner déjà avec ça. Parce que nous parlons du sida. Aujourd'hui, je dirais, en passant, les critères de classification du sida qu'on utilise aujourd'hui, sida stade 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle les critères des Bangui. Il y a quelques années, on les a donnés. C'est qu'on n'a pas dit. La conférence internationale qui a donné ces critères, c'est à Bangui. Mais l'équipe qui a donné les premiers critères, qu'un malade du sida se reconnaîtra par une diarrhée longue de 2 mois, va perdre des cheveux, va maigrir de plus de 10%, c'est une équipe congolaise de l'hôpital général, même avec Dr Kapita. Ils ont reçu des prix. Ils pouvaient mettre des prix Nobel à ce moment-là.
Je savais pas non plus.
On a dit,
hein,
c'est la conférence de Bangui, parce que la conférence est à Bangui. Moi, j'aimerais dire, il faut dire les critères des Kinois ou des Kinshasa ou des critères congolais. Le sida, par exemple, aujourd'hui, beaucoup des choses qui sont passées dans le sida ont été étudiés au Congo. Beaucoup des grands acteurs mondiaux, Peter Piot, l'ancien directeur de l'ONU SIDA, Rambori, tous les grands noms que nous connaissons, sont passés par le Congo. Donc le Congo est un pays aussi pionnier.
Ils sont passés par le Congo pour faire des études sur
sur cette maladie. Leur premier pas dans cette maladie, c'était au Congo.
Pourquoi le Congo?
Bon, d'abord le Congo, vous savez, j'ai fait lien avec le SIDA. Le SIDA est une maladie qui prend à peu près 70% des malades vivant avec le VIH sont en Afrique subsaharienne. Disons à peu près la moitié, 60%. Et en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara. Et quand vous prenez l'ensemble des pays du sud du Sahara, le Congo, parce qu'au cœur, c'est la forêt, c'est 2 345 000 km². Et ça fait une masse, aujourd'hui, plus de 80 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup à prendre au Congo, beaucoup à faire. C'est multiculturel, et puis, c'est au centre de l'Afrique. Donc, depuis 20 ans, 30 ans, beaucoup de grandes études ont été faites ici au Congo. On pense même que, en étudiant beaucoup sur le Congo, et ça je dis juste en parenthèse, il y a John Mukili qui est un Américain congolais, qui est un Américain qui travaille aussi ici à Atlanta, qui est en train de faire une étude, une forte grande thèse sur la généalogie du sida, les ancêtres des ancêtres des ancêtres du VIH. Et en pensant que si on retrouve l'ancêtre le plus lointain, ça peut me permettre de faire un vaccin qui peut être applicable à plusieurs sous-types du sida. Et en suivant cette généalogie, on se rend compte que les ancêtres des ancêtres des ancêtres viennent de la cuvette centrale du Congo. Donc au Congo, certainement, nous trouverons la grande solution de la lutte contre le sida. Probablement, les premiers mutants sont venus du Congo, de la cuvette centrale. Donc il y a autant de choses.
Très intéressant, docteur. Je vous interromps pas. Nous sommes déjà là en plein dans le sida. C'est le travail que vous faites avec Amour au Congo. Je l'ai dit qu'il y a eu une organisation non gouvernementale congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-SIDA en RDC. Mais avant d'en arriver, comment vous passez vos moments de détente? Quand vous n'êtes pas dans vos papiers, au bureau, avec les malades?
Il faut dire que j'aime beaucoup d'abord mon église et je salue tous les gens de mon église de la Borne à Lupin où j'habite depuis 14 ans. Donc je passe beaucoup de temps avec ces personnes, avec ma famille. J'aime beaucoup la télé, disons les films. Peut-être pas toute la télé en général, les journaux télévisés, mais les films, quand je suis un film, j'aime bien le suivre de bout en bout. J'aime la lecture Et en particulier, j'aime la lecture sur les couples. Et je suis des cours même en ligne sur les couples. Je suis conseiller conjugal, okay. Si je peux dire.
Okay.
Donc, la résolution de conflits et tout, des choses comme ça, c'est...
Vous recevez beaucoup des couples.
Je discute avec beaucoup de gens qui ont des problèmes dans ce sens-là. Mais je lis beaucoup, mais aussi j'interviens de temps en temps, m'invite à gauche à droite dans des groupes pour parler un peu de l'équilibre, des choses comme ça. Bon, j'aime bien ça.
Vous aimez la lecture, la télé, pas la musique?
La musique religieuse, beaucoup. Alain Moloto, paix à son âme, j'aime beaucoup, surtout ses paroles, son style d'écrit, ça m'a beaucoup impressionné, ça j'aime, voilà, et puis bon, j'aime l'agriculture, donc j'ai fait les champs à Kassangourou, quand tu me vois un samedi, un dimanche, j'échange, je suis pas médecin, j'ai mon grand chapeau, j'ai mes 5 hectares de culture là-bas, donc c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Et maintenant, là, chez moi, en Bise,
qu'est-ce que vous avez?
J'ai planté des bananes, et puis du manioc, des bananes plantains. Du manioc. Et aujourd'hui, on a aussi des étangs de poissons. J'ai 3 grands étangs de poissons. Ça travaille bien. Donc, j'aime beaucoup l'agriculture. Passer tout mon temps là-bas jusqu'au soir. Et mes enfants aussi aiment ça.
Vous les avez initiés?
Oui, ils aiment. Et aujourd'hui, à la maison, on a commencé l'élevage des poules, de lapins. Et c'est pas la première fois. Je le fais souvent. Et ça tombait un peu en ruine, mais ça a repris. Donc, je suis trop naturaliste.
On va souffler un peu, docteur. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
De protection pour toutes les générations et cela sans exception.
Toi, waka 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 waka, tiens là, waka waka waka.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin, vous pouvez découvrir aujourd'hui Dr Henri Mukumbi Masangu. Il est médecin spécialiste en santé publique, expert international en VIH-Sida. Il est également directeur exécutif d'Amon Congo, qui est une ONG non gouvernementale congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Docteur, on va parler d'Amon Congo. C'est une ONG qui a été créée en 1993.
Oui, à mon congrès, était créé en 1993 par un groupe de personnalités, des médecins, des théologiens et des économistes, moi notamment. Et je dirais, à cette époque-là, le sida est à ses débuts. c'est plus les malades sont là, ils sont dans l'hôpital. Et à cette époque, on parle plus de la prévention, abstinence, fidélité, préservatif. On ne voit pas encore les malades. Tout le monde dit attention, il y a une nouvelle maladie, c'est grave et tout et tout. Mais quelques 5 ans après, on commence à voir pas mal de malades, à gauche, à droite, des gens qui viennent mourir à l'hôpital. Ce sont des pestiférés, on ne veut pas les voir, on les abandonne à l'hôpital. Et c'est là où nous commençons au Congo, parce que nous sommes à l'hôpital, nous avons des femmes qu'on amène parce qu'elles ont le sida, la médecine interne de femmes, et automatiquement, les gens ne veulent pas les rendre visite, parce que j'ai vu que tu es le sida à cette époque-là, c'est la stigmatisation totale, personne ne veut te toucher, et même les enfants, les
même
abandonnent.
Même les médecins?
Non, si nous les médecins, nous sommes peut-être formés, préparés, mais même dans les corps de médecins, je connais des médecins qui ne voulaient pas du tout pas entendre parler du sida. Ils disaient, ce sont des gens qui vont mourir, pourquoi m'en occuper, et tout et tout. Nous aussi, on était presque de rebelles médecins à ces moments-là. Il y a même des gens qui nous ont dit, mais tu t'occupes du sida, tu vas mourir du sida. Les chanteurs qui ont chanté sur le sida sont morts du sida. Les acteurs de théâtre qui ont joué les pièces sur le sida sont morts du sida. Vous voulez vous occuper du sida, vous mourrez du sida. Mais je suis pas mort, ça fait 20 ans. Donc, nous commençons à Mou Congo dans ce contexte-là de prise en charge des enfants dont les parents étaient nos malades et sont morts du sida. Parce que les enfants étaient abandonnés. Il fallait les remettre à la cité. Et à Mou Congo signifie avenir meilleur pour les orphelins, sous-entendu du sida. Mais en fait, l'idée, c'était de s'occuper de ces enfants, qui certains étaient séropositifs, d'autres n'étaient pas, mais affectés par le sida. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas attendre que les mamans meurent pour s'occuper de leurs enfants. Déjà, de leurs vivants, on commençait à négocier avec eux et les traiter. Et hop, on a eu une cohorte des mamans malades du sida qu'il fallait s'occuper. Pas seulement au point de vue psychologique, parce que c'était une maladie qui était stressante, stigmatisante, c'était la mort demain. Donc, il fallait faire le counseling, l'accompagnement, c'était compliqué à ce moment-là, l'encouragement, accompagnement jusqu'à la mort. Et après, on a eu des hommes. Et après,
Vous le faites gratuitement?
Oui. À Mou Congo, on a ouvert donc ses bureaux à Bandal à cette époque-là, avec un programme qui, heureusement, a été soutenu rapidement par l'ambassade de France. 50 000 francs français, je crois, l'ambassade suisse. Et pour nous, c'était de former des personnes qui peuvent être prêtes à écouter un malade du sida et à l'accompagner. Tant médicalement, que socialement, que psychologiquement. Et principalement pour les pauvres, Donc tout est gratuit. Mais gratuit parce qu'il y a des partenaires financiers qui donnent. Là, je les salue en passant. Parce que souvent, on dit, non, écoutez, c'est du gratuit, mais il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Il y a quelqu'un qui paye. Donc, à Mou Congo a grandi beaucoup. Le besoin était énorme. Donc, nous étions presque la première organisation non gouvernementale à s'occuper, à faire la prise en charge. C'est plus la prévention. Souvent, c'était la prévention. Tous les ONG, c'était la prévention. Les Américains, la prévention. Nous ne sommes pas venus pour faire la prévention. Nous sommes venus dire qu'il y a des malades. Nous nous en occupons. Et on a commencé. Donc, on a évolué jusqu'à avoir des cliniques, jusqu'à avoir des centres sociaux, des écoles d'informatique pour les enfants orphelins. Et jusqu'en 2010, donc il y a 4 ans, en faisant le bilan sur les 33 000 malades congolais sous traitement antirétroviral, nous, le groupe Amo Congo, dans l'ensemble de ces structures, à Lubumbashi, à Mbujuma, il y a un peu partout.
Vous êtes implanté sur toute cette zone de la République?
Nous l'étions maintenant, vu les financements diminués, on est dans 3 villes. Disons, on est dans 3 provinces, le Katanga, le Bakongo et Kinshasa. Mais en 2000, quand j'ai dit, c'était vraiment l'apogée. Nous étions en Mbujimayi, nous étions à Kananga, nous étions partout, avec plus de 10 000 malades sur les... Donc 33% des malades congolais. Nous les prenons en charge.
Mais pourquoi le financement a diminué, docteur?
L'environnement, d'abord financier lui-même, est assez difficile. C'est les bras de fonds internationaux, disons le Fonds mondial et tout, la Banque mondiale. Et puis maintenant, c'est l'encouragement du Congo pour participer aux frais, en ce sens-là. Donc tout ça s'est joué. Et puis, en l'interne du Congo, on a encouragé que les structures gouvernementales, elles aussi, participent à la prise en charge, pas seulement les ONG. Donc, c'était aussi une recommandation pour financer davantage, pas seulement les ONG, mais les structures de l'État, ce qui est salutaire aussi. Donc, le cap a un peu changé, et nous, on a dégringolé nos malades pour les renvoyer dans les structures de l'État. Ceux qui sont venus chez nous ont continué. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur le Kinshasa, j'ai à peu près 3000 à 4000 malades. Je crois, je suis l'un des partenaires qui a le plus de malades dans les centres de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons à peu près 51 000 malades congolais sous traitement antirétroviral, et nous, à Mou Congo, nous en gérons encore à peu près 5 000. Donc, ça fait 10% dans l'ensemble du pays. Ça fait en fait l'importance de notre travail. Et comme je l'ai dit, à moins...
Et donc, ils suivent les traitements chez vous, ces malades qui sont sous la responsabilité, si je peux dire, ici, dans Mou Congo.
Ils suivent les traitements chez nous, c'est-à-dire quand nous parlons des traitements pris en charge médicale, c'est-à-dire des consultations, c'est-à-dire les examens des laboratoires qu'il faut nécessairement faire, mais aussi pour la prise en charge psychologique. L'adhérence au traitement et tout, et même le suivi qu'ils ne viennent pas. Et ils reçoivent ça tout ça gratuitement. La cure, elle est mensuelle pour le traitement antirétroviral, elle coûte à peu près $28. Et quand j'ai 5000 malades, vous voyez ce que ça fait pour 28. Chaque mois, il faut leur donner des médicaments. Mais c'est le Fonds mondial à travers le gouvernement qui les donne. Et donc ça fait beaucoup de budget tout ça. Mais il y a aussi la prise en charge psychosociale. dans le social, les visites à domicile, on a formé des volontaires pour les voir et tout. Il y a même la prise en charge économique. Il y en a qui reçoivent des crédits en termes d'haricots de 100 dollars, 200 dollars pour commencer à se débrouiller seul. Au lieu de me donner un poisson chaque jour, apprends-moi à pêcher. Donc on fait ça. Mais aussi la prise en charge scolaire pour les enfants. Nous payons des frais scolaires chaque année pour environ 2000 enfants, dont les parents sont morts du sida et qui sont en situation difficile économiquement. L'école primaire principalement, et à l'école secondaire, c'est souvent des écoles de vocation. Donc nous finançons la formation couture pour les jeunes filles, la formation en informatique ou en auto-école pour les jeunes garçons, surtout quand ils n'ont pas la possibilité de continuer. Et tout ça, il faut être autour de 18 ans avant 18 ans. C'est tout ça le travail dans mon Congo.
Est-ce que vous faites aussi le dépistage? Les gens qui ne sont pas atteints, ils peuvent venir chez vous pour se faire dépister?
Oui, parce qu'on est parti vite en besogne. Quand Amos s'est développé, avant même que la prise en charge médicale commence, nous avons commencé à faire les centres de dépistage parmi les premiers à ouvrir des centres de dépistage qu'on appelle communautaires, donc un peu partout à la cité. Ce sont des centres communautaires, d'accord, c'est comme des dispensaires, mais où n'importe qui, quelqu'un qui veut savoir sa situation sérologique, c'est-à-dire s'il y a la présence du virus ou pas, il peut venir. Et c'est gratuit. Et même aujourd'hui. Par exemple, au centre de Kasavubu, chaque jour, nous recevons 20-30 personnes qui viennent pour faire le dépistage. Ils viennent parce qu'ils veulent se marier, ils viennent parce qu'ils veulent savoir, ils viennent parce qu'ils se soupçonnent, ils viennent pour plusieurs choses. C'est même la porte d'entrée pour aller au traitement. Ça, je ne l'ai pas dit. Et là, je dis en passant, les années passées ou autres, nous étions aussi en termes de résultats pays en train de produire presque 20 à 30% de l'ensemble du dépistage sur l'ensemble du pays. Nous sommes vraiment un grand moteur pour le programme national de lutte contre le sida en termes de dépistage. On a plusieurs centres, 22 centres de dépistage dans l'ensemble du
20
pays.
20 à 30 personnes qui viennent pour le dépistage
par jour.
Par jour, c'est pas faible?
Mais oui, quand je vois
qu'il y a ça. Au nombre des.
Oui, quand j'ai dit par jour, vous faites maintenant fois à peu près 300. Dans l'année, nous avons 365 jours, vous faites peut-être fois 300. Donc nous atteignons comme ça des chiffres de 150 000 par an et tout. Bon, maintenant, je vais dire quelque chose de très important en encourageant la population de Kinshasa. Il y a 15 ans, 20 ans, ou même disons 15 ans, quand nous avons commencé nos premiers centres de dépistage, on recevait 2 à 3 personnes par jour. Les gens ne voulaient pas et tout et tout. Mais les choses ont avancé, puis 10. Mais aujourd'hui, je vous dis facilement 20. Et quand nous faisons des campagnes avec des calicots, les gens viennent. Donc, même la population a changé de comportement. Ça, il faut l'encourager. Souvent, les gens qui ne sont pas avec nous, je disent, ah, c'est compliqué. Non, non, les gens viennent facilement pour faire leurs tests.
Et ils reviennent prendre les résultats?
Ils viennent prendre les résultats. Mais aussi, la technique a changé. Il y a 10 ans, tu viens, tu donnes ton sang et tu as une semaine pour reprendre le résultat. Parce qu'on avait des tests plus rapides, lents, Elisa et tout et tout. Et ça faisait que sur 100 personnes qui venaient, 60 venaient, on avait une déperdition des 40. Mais aujourd'hui, on a des tests rapides. Quand tu viens, dans les 1 heure, donc dans les 40 minutes, on a les résultats. Madame, j'en profite pour dire aussi, nous avons aussi des cars mobiles qui font du dépistage en dehors de nos centres. Nous pouvons aller au rond-point Gaba avec une ambulance et tout, l'équipement est là. Et on émet les calicots, dépistage gratuit ici. Et vous voyez des gens qui viennent. Hein. Et si nous voulons faire 100 personnes, nous le ferons. Souvent, nous fouillons parce qu'on n'a pas suffisamment de temps nous-mêmes. Mais on est vraiment acculé.
Mais docteur, il y a certaines personnes qui sont réticentes parce que elles disent que les médecins ne savent pas garder le secret. C'est vrai, les personnes viennent se faire dépister lorsqu'on est positif. Ce sont les médecins même qui propagent la nouvelle que non, telle personne est malade, telle autre personne est malade.
Non, je crois que tout le monde sait, la déontologie médicale parle beaucoup du secret professionnel dès le départ. Un bon médecin, il a prêté son serment d'Hippocrate, il s'est gardé son secret. Les médecins dont tu parles qui divulguent comme ça facilement, ce sont les mauvais médecins. Donc il ne faut pas qu'on construise la société sur quelques 2-3 mauvais médecins.
Mais ça pousse aussi les gens à pouvoir être réticents.
Bon, mais maintenant, ça, ceci dit, j'aimerais bien calmer les gens. Je crois qu'il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui à savoir sa situation sérologique qu'à hésiter. Parce que plus tôt on se le sait, plus tôt on te prend en charge, et mieux tu vivras pendant plus longtemps. Aujourd'hui, on a l'arsenal de lutte contre le sida, les médicaments convenables. On sait stabiliser la maladie, mais il faut venir plus tôt. La plupart des malades me disent, docteur, non, mon grand problème, c'est que les autres sachent. Mais quand je l'encourage à partager, et puis viens dire, mais docteur, je ne sais pas, j'aurais dû faire ça
depuis
longtemps.
C'est pas toujours facile, docteur.
Oui, c'est vrai. C'était pas toujours facile, je pourrais dire, mais aujourd'hui, ça change beaucoup. C'était pas facile parce que le sida, c'est une maladie mortelle, surtout il y a quelques temps, et stigmatisante dans la société, et c'était pas facile de le dire.
Mais elle reste toujours mortelle, non? La maladie. C'est
oui.
Vrai qu'il y a des traitements, il y a des antirétroviraux.
Voilà.
C'est pour stabiliser.
Oui.
Mais ça ne guérit pas.
Oui, mais vous savez, en médecine, traiter une maladie, ce n'est pas seulement guérir à 100%. On a ce qu'on appelle la réhabilitation. Quelqu'un fait un accident et on l'ampute la jambe ne va pas repousser. On va lui donner les orthèses, les prothèses et tout et tout. Il y a des diabétiques qui existent sur cette terre, on les soigne pendant 30 ans avec la maladie qui restera. Donc, nous ne sommes pas là seulement pour dire que c'est comme le paludisme, on va tuer tous les trypanosomiens, tous les virus ou les microbes qui créent la maladie comme telle. Non, mais là, nous pouvons stabiliser. Quelqu'un peut vivre avec son virus pendant 10 ans, 15 ans. On peut aller plus loin.
Docteur Henri Mukumbi, on va suivre les résumés que Donna Madimba nous propose du discours du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la journée mondiale du sida. C'était le 1er décembre dernier, donc 2013. Puis on revient dans ce studio pour un petit commentaire.
Le message du secrétaire général de l'ONU cette année est double. Optimiste quand il évoque les progrès et je cite, dans la plupart des pays du monde, la lutte contre le VIH progresse à grands pas. Le nombre de nouvelles infections et des décès est en net recul, fin des citations. Et à Ban Ki-moon d'ajouter que l'objectif de stopper le sida et ou inverser son cours en assurant d'ici à 2015 les antirétroviraux à 15 millions de personnes est lui aussi en voie d'être atteint. Il remercie pour cela tous ceux qui financent la lutte contre le sida dans le monde, notamment les grands pays et les pays à revenus faibles ou intermédiaires dont il apprécie l'augmentation des dépenses de lutte contre le sida. Cependant, le secrétaire général de l'ONU reconnaît que les défis à relever restent à ce jour encore nombreux, notamment chez les enfants où il y a encore de nouvelles infections au VIH et chez les femmes vivant avec le VIH qui devraient avoir toutes accès au traitement. Il dénonce la stigmatisation encore existante vis-à-vis des personnes atteintes et exige à ce sujet un changement immédiat de comportement. Il estime que continuer à investir, agir, innover et aiderait beaucoup à atteindre l'objectif de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida.
Merci Dola Madimba. Docteur Henri, est-ce qu'il y a un espoir de trouver un vaccin qui guérit vraiment de cette maladie?
C'est possible, mais le problème, il faut un recul, il faut du temps. Et le vaccin, par définition, c'est l'injection de l'agent causal même atténué. Donc il faut un modèle animal sur lequel on peut tester. L'homme n'est pas le bon modèle parce qu'il est humain, on ne peut pas le mettre comme un simple cobaye. Donc il y a le modèle animal qu'il faut, et il faut le temps. Il y a des vaccins qu'il faut traiter pendant 5 ans, 10 ans, simple aveugle, double aveugle. Il y a des méthodologies, ça c'est une chose. Mais il n'est pas dit aussi que pour soigner toute maladie, il faut seulement le vaccin. Je reviens sur la malaria, on n'a pas nécessairement de vaccin anti-malaria. Mais on a des médicaments, des antibiotiques et tout. Et aujourd'hui, par contre, on est parti dans la voie de antiviraux. Donc, ceux qui stabilisent, qui freinent le virus. Et avec ça, on s'est rendu compte qu'on peut stabiliser les malades. Je vous ai dit qu'ici, depuis 10 ans, nous le faisons. À Anvers, où j'ai étudié, j'ai trouvé des malades qui ont un recul de 15 ans, des gens qui vivent bien. Qui ne nous dit pas qu'avec les élevés stabilisés, quelqu'un peut faire 30 ans. Si aujourd'hui, quelqu'un a 50 ans, que tu es séropositif, que tu as encore 30 ans devant toi, bon, tu as ta vie. Donc, ça aussi, c'est une autre voie. Et les ARV dont on parle, au départ, c'était des multiples comprimés assez complexes avec des effets secondaires. Mais aujourd'hui, on a réduit tout ça en 2-3 comprimés, le matin et le soir. Au départ, ça coûtait $1000 la cure mensuelle. Aujourd'hui, ça coûte moins de $30 la cure mensuelle.
Donc, on a... Ces ARV ne sont pas à la portée de tout le monde, c'est ce qu'il faut dire aussi, docteur.
Oui, bon, mais qu'est-ce qui est à la portée? Mais déjà, partir de $1000 jusqu'à $30, il y a un grand progrès. Quand je vois Bandal, partout à Kinshasa, combien de gens boivent la bière du matin au soir, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai, c'est pas encore à tout le monde, mais les gouvernements font d'efforts.
Je parle pas aussi de la somme, mais plutôt de la disponibilité de ces ARV.
Non, je pense que tout ça dépend des moyens qu'on met, que l'État met, mais qu'aussi les personnes elles-mêmes mettent, les sociétés mettent. S'il y a suffisamment d'argent, on achèterait des antirétroviraux pour tout le monde. Aujourd'hui, on chiffre à peu près 650 000 malades congolais qui ont besoin des antirétroviraux, selon le schéma avant. Parce que les choses ont changé aujourd'hui, je t'en parlais peut-être tantôt. Donc, mais nous sommes qu'à 50 000. Et c'est le Fonds mondial principalement qui donne l'argent. Bon, il faut que le gouvernement participe aux frais. Là, j'interpelle le gouvernement. Ils ont dit que 15% du budget de l'État doit être revenu à la santé et dans lequel une bonne proportion doit aller au sida. Avec le ministre actuel, des efforts ont déjà été faits. Il y a eu des décaissements du contrepartie congolais, mais c'est pas encore suffisant. Nous avons des mines partout, nous avons beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de minéraux, donc il y a moins de participer. Mais aussi la participation locale. Quand je vous dis que le traitement aujourd'hui actuel est à peu près autour de le médicament lui-même moins de $30, dites-moi combien des maisons à Kinshasa coûtent $30 par mois. La plupart d'entre nous louons des maisons de $100. Si nous savons louer une maison de $100, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre un traitement pour soi de $30 par mois et rester en vie?
Vous avez déjà la maison à payer, $100 pour la maison, vous aurez les $30 pour la maison.
Mais qu'est-ce qui est plus important? Être resté en vie avec $30? Moi, je préfère encore payer ma vie à $30 chaque mois
et dormir,
que de louer la maison chez mon frère ou chez n'importe qui. Combien de Congolais dorment dehors?
Mais c'est pas tout le monde qui va vous accepter.
Je comprends. Mais là où je donne aussi une éducation à la population, facilement, on jette la balle à l'État, on jette la balle à tout le monde, alors que nous-mêmes, nous sommes des grands dépensiers, surtout dans les grandes villes. Et là, j'en viens, regardez Bandal, Kasavubu. Depuis un bon bout de temps, toutes les rues se transforment en bar à partir de 17h. Quand nous sommes venus à Kinshasa, c'était les samedis et les dimanches. Mais aujourd'hui, même lundi matin, les gens sont déjà en train de prendre leur bière. Et ça coûte combien la bière? Et vous allez voir la mentalité quinoise, sur une table, c'est 15 bières. Moi, en tant que médecin, quand je parle, je dis, mais les gens ont quand même l'argent dans leur poche. Bon, ceux au moins qui sont à Bandal, qui sont à Ville, regardez le nombre de voitures qu'il y a à Kinshasa. Chaque jour, il y en a qui entrent. Les Congolais sont des spécialistes d'importation des voitures. Mais quand on parle du traitement, ah non, on n'a pas d'argent. Mais tout ça, ce sont des efforts. Les églises, ça ne plus. Les chaînes de télévision, il y a à partir d'une cinquantaine de télévisions locales, dont une bonne trentaine sont des églises. Ces églises doivent participer aussi aux frais. Pas seulement ouvrir des chaînes, pas seulement construire des temples, mais comment est-ce que nous pouvons prendre en charge jusqu'à 1000 manates? Donc, il y a de l'argent dans le pays.
Mais docteur, il y a aussi des pauvres qui n'ont vraiment rien.
Il y a des pauvres qui n'ont vraiment rien, qu'il faut soutenir. Par exemple, en Congo, nous avons ouvert des centres, c'est gratuit. Mais comment nous faisons? Chacun est libre. Si vous voulez à Mon Congo, par exemple, le centre de Kasavubu, c'est Tamatongue. C'est un peu rustique. Nous, nos centres ne sont jamais à la Gombe. Quand vous allez à Lubumbashi, c'est à la Kenya, à la Katuba. Quand vous allez à Matadi, c'est en Zanza. Quand vous allez au Kasai, au Kivu, c'est à Birere. Donc, quand vous êtes à Mbujima, c'est à Simis. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle les Matongue de là. Nous mettons nos centres là-bas.
Dans les quartiers populaires.
Oui, celui qui estime qu'il est pauvre, qui ne peut pas payer, il vient. Ceux qui peuvent venir gratuitement, ils viennent. Et je vous dis, les gens viennent. Le dépistage, il est gratuit. Mais il y en a qui préfèrent aller faire le dépistage dans des centres où on paie $50, alors qu'on peut le voir gratuitement à la cité.
Depuis 93 jusqu'à 2014, aujourd'hui, le bilan est, je dirais, positif pour Amon Congo.
Pour Amon Congo, en termes de satisfaction morale et sociale, oui. Nous avons pas mal soutenu des malades, je vous l'ai dit. 10 000 malades sur les 33 000. Aujourd'hui encore 5 000 sur 50 000 ici à Kinshasa et tout. Ça fait du bien de voir que les gens qui pouvaient déjà être morts sont encore en vie. Ça nous fait du bien. Donc ce bilan est positif. Ça fait 20 ans que notre organisation existe. C'est pas facile d'avoir une ONG. Et je dis en passant, c'est une ONG congolaise. À 100% congolaise. Qui a été créé principalement par des Congolais. À l'époque, il y avait quelques Blancs, mais nous sommes tous restés Congolais depuis plus de 18 ans. Et nous travaillons. Donc, on a donné de l'emploi à des Congolais. En 2010, j'avais 280 agents, 44 médecins à temps plein. Ce sont des Congolais qui ont eu des salaires et des familles. Et puis, à côté de ça, il y a tous ces malades qui ont été soutenus. Les gens qui sont partis en formation. Chaque année, on envoie des gens en formation. À l'étranger, à Ouagadougou, partout. Donc, ça fait du bien de voir que nous participons à la formation du peuple congolais, des médecins congolais. Mais nous soignons une grande partie des Congolais. Les enfants qui étudient, ça fait autant de bilans. Et surtout, nous améliorons. Et même la recherche, ça, je l'ai pas dit. Il y a des thèses d'agrégation qui ont été faites à l'université de Kinshasa sur les malades au Congo. Les thèses de spécialisation. Chaque année, on a au moins 3-4 spécialistes en médecine interne des cliniques universitaires qui viennent suivre les malades au Congo, sur Amon Congo. Donc, on participe à la recherche internationale. Ça fait du bien.
Alors, docteur, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission pour parler de vous et parler aussi d'Amon Congo, qui est cette organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre le VIH-SIDA. Un dernier message avant de nous séparer, brièvement.
Très brièvement, aujourd'hui, le SIDA est soignable. Et il faut venir faire le test. On encourage les gens à faire le test. Et aujourd'hui, n'attendez pas d'être malade. Venez vite. Les médicaments sont disponibles et vous serez les bienvenus. Donc l'an 2014, nous sommes maintenant dans la phase de l'espoir. On pense que si tout le monde s'engage, on aura bientôt SIDA zéro. On aura zéro stigmatisation et zéro infection. D'ici 2020, si nous faisons les mêmes efforts, nous pouvons stabiliser, maîtriser le SIDA. Nous pouvons même vaincre le SIDA. Nous, Congolais, mais nous aussi international. Tout le monde. Donc, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Le SIDA n'est plus cette maladie fatale, mortelle. Nous pouvons la vaincre. C'est possible. Au niveau international, on le sait. Et nous allons dans ce sens-là maintenant.
Merci beaucoup, docteur Henri Mukumbi Masangu.
Merci, Madame Kelly.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr Henri Mukumbi. Il est spécialiste, il est médecin spécialiste en santé publique et expert international en VIH-SIDA. Il est également directeur exécutif de ACS Amon Congo. Merci à Paul Badjanema qui était à la mise en onde au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.